J'ai dû louper un épisode. Les entretiens de Pascal Fourier. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement. Pourquoi vouloir l'interviewer, lui ? Parce qu'il se revendique de l'autre mot interdit dans le débat intellectuel, le premier étant protectionnisme, un vilain, horrible gros mot, le mot de nation. Et moi, que des mots comme ça deviennent interdits de débat, je trouve ça louche. Et je me demande quels intérêts cela sert de fait. Cris d'orfraie dans les milieux bien pensants, haussement d'épaules, sourire narquois, Chevènement est un ringard complètement dépassé par l'évolution du monde tel qu'il va, voire même un Devilliers de gauche. Voilà ce que l'on entend. Je voulais laisser à cet homme de grande culture, à l'exigence intellectuelle vive, le temps de nous expliquer, de façon argumentée, pourquoi il pense que le mot de nation a encore quelques validités. Je suis donc allé au Sénat, où, entre deux rendez-vous, il m'a reçu une demi-heure. Première partie de l'entretien. Quand j'ai parlé à mes amis du fait que j'allais vous rencontrer, on m'a dit, mais tu vas voir quelqu'un qui professe des idées complètement obsolètes, et en particulier l'idée de nation. Chevènement est complètement déconnecté de la réalité. Est-ce que vraiment on peut dire que l'idée de nation est obsolète ?
Je ne le crois pas. D'abord parce que dans le monde tel qu'il va, je ne vois pas que la nation ait disparu, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni en Russie, ni en Brésil, ni en Inde, et je vois même que de très petites nations, par la taille, peuvent jouer un rôle très important. Je pense à Singapour, à Israël, à Cuba, au Venezuela. Le monde reste fait de nations, et ce n'est pas par hasard qu'il y a une organisation des Nations Unies. C'est que les hommes se définissent aussi par une appartenance nationale, et que la nation est le cadre de l'expression démocratique, parce que naturellement le sentiment d'appartenance permet à la démocratie de fonctionner. La démocratie, c'est l'acceptation de la loi de la majorité. Ça ne va pas de soi. On accepte la loi de la majorité dans un certain cadre, qu'on n'accepterait pas dans un autre cadre. Donc la nation, c'est la démocratie. Deuxièmement, la nation, c'est la solidarité. Vous remarquerez que la sécurité sociale est nationale. C'est un budget considérable. Sans la sécurité sociale, quelle serait la réalité de l'État-providence ? Enfin, troisième argument, la nation est le levier de notre responsabilité par rapport au monde. Je sais bien que la mode est à l'humanitaire, mais rien ne vaut une politique étrangère vigoureuse qui s'exprime avec force sur des sujets déterminants pour l'avenir de la paix dans le monde. Je ne citerai que le problème israélo-palestinien, la question de l'Irak qui a entraîné plusieurs guerres et des millions de morts. La question du Pakistan, nation récente, à certains égards artificielle, puisque constituée à partir de la volonté des musulmans de l'Inde de se doter d'un État. Disons que nous devons aider ce pays à affermir sa vocation nationale et à devenir une nation, je dirais, comme les autres, coopérant avec ses voisins, je pense en particulier à l'Inde. C'est une dimension tout à fait essentielle. Il faut que le Pakistan passe d'une géopolitique passionnelle à une géoéconomie rationnelle. Je pourrais prendre des exemples en Europe. Croyez-vous que l'unification allemande n'est pas due quelque chose au sentiment national allemand ? Quand les manifestants de Dresde ou de Berlin ont commencé à crier non plus Wir sind das Volk, ce qui veut dire nous sommes le peuple, mais wir sind ein Volk, nous sommes un peuple. On assistait à un changement qualitatif de la revendication. C'était une revendication nationale. Et le chancelier Kohl a bousculé le jeu pour imposer une réunification qui correspondait d'ailleurs naturellement à l'aspiration des Allemands. Je pourrais multiplier les exemples. Ceux qui ne sont pas dans le coup sont à mon avis ceux qui surfent sur la mode et qui ont oublié que le sentiment d'appartenance nationale s'est forgé au long des siècles, pour ne pas dire des millénaires, qu'il y a là quelque chose d'extrêmement fort qu'on ne peut pas faire disparaître d'un coup de gomme. Certains l'ont cru dans le passé, en France, dans les années 30, on était très antinational. Les gens regardaient vers Rome, Moscou, Berlin, pas vers Paris. Paris, on était pacifiste. Puis ça a donné la défaite de 1940, l'occupation. Et on a vu des gens comme Aragon qui conchiaient le drapeau français, je mets ça entre guillemets, hein, qui ensuite ont chanté la France dans leur poésie, très bien d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même tout à fait significatif. Il y a des gens qui ont changé d'avis, qui très hostiles à l'idée même de nation, dans laquelle ils voyaient le synonyme de la grande boucherie de 1914-1918, ont fini par redécouvrir la vertu démocratique et libératrice de la nation.
Mais certains pourraient vous dire que maintenant les problèmes ont vraiment une dimension internationale, en particulier les problèmes liés au changement climatique, notamment aussi à la crise, et que donc il faut savoir dépasser le cadre national.
Mais les problèmes ont toujours eu une dimension internationale, ce n'est pas d'hier. Et la nation, comme je vous l'ai dit, est un point de levier, est un levier. À partir duquel on peut agir dans l'ordre international. Jaurès disait déjà, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'agissant de la crise, je vous fais observer que la réaction a été d'abord nationale. C'est M. Sarkozy et M. Gordon Brown qui ont fait des propositions que Mme Merkel d'abord ne voulait pas accepter, et qu'elle a fini par entériner quand on s'est aperçu que les banques allemandes étaient au bord de la faillite. Et puis, de proche en proche, on a réuni le G20, enfin le G14 qui est devenu le G20, à Washington, et par conséquent, à partir d'initiatives nationales, entérinées au niveau de plusieurs cercles de solidarité, au niveau de l'Union européenne, mais ça n'est pas allé sans mal, puis au niveau des 20 pays qui représentent 85% du PIB mondial. Vous me direz que le PIB n'est plus à la mode, certes, mais je dirais il vaut mieux avoir des idées claires et qui résistent que de chevaucher les coxydrues. Vous connaissez ce mot?
Non.
C'est dans Rabelais, vous avez des animaux volants à haute altitude avec 1000 pattes, c'est des 1000 pattes volants. On appelle ça des coxygrues. Alors il y a beaucoup de gens qui courent après les coxygrues.
Certains vous diraient, certes, ce que vous dites jusque-là est valide, mais il faut mettre tous nos espoirs dans la construction d'une Europe dans laquelle un peuple européen pourrait se reconnaître.
Mais vous savez, on n'a pas fait le peuple français d'un seul coup. On a mis au moins 1000 ans, hein, peut-être même 2000. Hein, et je ne sais pas ce que c'est que le peuple européen. Où s'arrête-t-il? Est-ce que vous allez rejeter les Russes, par exemple? Hein, je ne parle pas des Ukrainiens, des Biélorusses, etc. Quid de la Turquie? Qu'est-ce que l'Europe? Enfin, où s'arrête-t-elle? À l'Oural? À Vladivostok? Avant? Tout ça est une idée encore imprécise. Qu'il y ait un cercle de solidarité entre les nations européennes, parce qu'elles sont situées à l'extrémité du petit cap eurasiatique, c'est vrai. Mais prenons par exemple l'exemple du commerce extérieur. L'Allemagne a une politique de déflation salariale depuis 2000 qui lui donne une compétitivité très grande au détriment de ses voisins européens. Donc on ne peut pas dire qu'elle ait une stratégie véritablement coopérative à l'échelle européenne. Elle a une stratégie dont je ne sais d'ailleurs pas quel mobile profond elle obéit. Parce qu'elle pèse aussi lourdement sur la croissance allemande. Certes, l'Allemagne a un fort excédent commercial, qui vient d'ailleurs être dépassé par l'excédent chinois. Mais cet excédent se réalise pratiquement aux deux tiers sur l'Europe. Il serait peut-être plus intelligent d'avoir une politique keynésienne à l'échelle d'un espace européen protégé. Mais qui est d'accord pour cela? À ma connaissance, pas l'Allemagne, mais l'Allemagne est le pays le plus puissant de l'Europe. Et à partir du moment où l'Allemagne ne veut pas d'un gouvernement économique de la zone euro, par exemple, comment le lui imposer? J'ai pris cet exemple, je pourrais en prendre un autre. En matière nucléaire, l'Europe s'en est remis du soin de sa défense aux États-Unis. Si vous allez dans les pays de l'Europe centrale et orientale, vous verrez qu'ils préfèrent être protégés par Washington plutôt que par Bruxelles. On les comprend. Mais ils préfèrent même Washington à Paris ou à Londres. Et d'une certaine manière, on peut les comprendre aussi parce qu'il y a le souvenir de 1940. Les Britanniques considèrent que leur sécurité est fondée sur une relation spéciale avec les États-Unis, qui leur fournissent leurs missiles Trident. L'Allemagne, son ministre des étrangères, est pour une Europe dénucléarisée. Mais ce n'est pas la position de la France. Et vous comprenez bien qu'on peut parler d'Europe sans savoir. Mais la réalité, c'est que l'Europe se fait sur certains sujets, à géométrie variable, qu'elle est une dimension importante, essentielle même, de notre politique, mais elle ne s'y résume pas. Si on comptait sur l'Europe pour vendre nos rafales, nous n'aurions encore rien vendu. Parce que, par exemple, aux Pays-Bas, les Américains sont suffisamment influents pour avoir imposé l'achat de F-16 ou de F-18, et demain de JSF-35. Par contre, au Brésil, on a réussi à vendre 36 rafales. Donc la France, elle a une vocation non seulement européenne, mais mondiale. Et il ne faut pas l'oublier. Nous sommes le plus important des pays francophones. Ça représente quand même une des grandes langues de civilisation. Et elle sera bientôt plus parlée en Afrique qu'en Europe. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas rien. Cela nous donne des responsabilités et des devoirs particuliers. Nous sommes un des pays membres du club très restreint des États dotés nucléairement. D'après les traités, il y en a 5. D'après le TNP. Puis 3 autres se sont ajoutés en contravention avec le TNP. Voilà, tout ça, ce sont des réalités nationales. On ne peut pas comprendre que l'Inde et le Pakistan aient voulu accéder à l'arme nucléaire si on ne part pas du conflit indo-pakistanais qui dure depuis 50 ans, un peu plus même. Et Israël, est-ce qu'on peut comprendre qu'Israël se soit doté d'armes nucléaires indépendamment du contexte du Proche-Orient? Vouloir faire l'impasse sur la réalité nationale, c'est se condamner à ne rien comprendre au monde dans lequel nous vivons. Ceux qui sont modernes ne sont pas ceux qui le croient.
Voilà, c'était la première partie de l'entretien que Jean-Pierre Chevènement m'a accordé le 15 septembre de cette année 2009. Vous pouvez trouver la deuxième partie de cet entretien sur le site www.j'ai-dû-louper-un-épisode-tout-attaché.org. Ainsi à terme que les transcriptions de cette interview et les entretiens de l'an passé avec Jacques Sapir, Emmanuel Todd, Gaël Brustier, Frédéric Lordon, Samir Amin, Christian Laval et Aurélien Bernier. Bonne écoute !